Le réveil culturel. Toufik Hakem.
C'est donc la bonne nouvelle de cette rentrée littéraire, on en parlait déjà lundi dernier. Il y a de très bons premiers romans, des romans écrits par des jeunes auteurs qui dressent en filigrane le portrait de leur génération, mais pas seulement. Une jeunesse française entre crise sociale et misère sexuelle contemporaine. Et aujourd'hui, trois nouveaux premiers romans. D'abord, « J'ai des idées pour détruire ton ego » d'Alban Ligné, édité chez Nil. Il y a aussi le roman de Mathieu Palin, « Sale gosse », qui sort chez l'Iconoclaste. Et enfin, Aurore Lachaud, qui sort son premier roman, qui a pour titre « Complément du nom » au Mercure de France. On va commencer par vous, Alban Ligné, et bonjour d'abord.
Bonjour.
Bonjour, donc Alban Ligné, votre premier roman « J'ai des idées pour détruire ton ego » est un roman sur une passion amoureuse au temps des sites de rencontres et du porno à portée de main. Une passion amoureuse où la colère et la vengeance vont se substituer très vite au désir inassouvi. Et une fois encore, c'est un portrait d'une jeunesse française populaire. « J'ai des idées pour détruire ton ego », Alban Ligné, un extrait de votre premier roman. 17h, soleil. À la fin du printemps, Châtelet est pris d'assaut. Des hommes, des femmes, des autres. Une flopée d'adolescents sur vêtements brillants en quête de potes. Des potes de classe, des plans Tinder, Grindr, des inconnus, des solitaires. Léonie reconnaît une ex au bras d'un mec. Gâchis. Deux lycéennes déjà titubantes à la recherche d'une paire de Nike. Un couple se retrouve après une dispute. La fille est trop maquillée. Ils surgissent des coins de rue et créent la masse. Des groupes se forment autour de la fontaine, une autre catégorie d'actifs. Elles fument ensemble contre un mur. Léonie, pensive en apparence, tire sur sa quatrième cigarette. Laure fait et défait sa natte blonde. La fin de leur service leur ayant rendu une liberté encombrante. Elles sont incapables de trouver une raison de partir. J'ai des idées pour détruire ton ego. C'est le titre de votre roman, Alban Ligné. De quoi parle-t-il?
Alors, mon roman parle de Léonie, sa protagoniste, qui a 27 ans et très peu d'ambition. Elle travaille au McDo la journée, elle est babysitter le soir. Elle garde la petite Lali, qui a 7 ans. Et Léonie ne rêve que d'une chose, c'est de retrouver son ex, Angela, qui lui a dit il y a 10 ans, à dans 10 ans. Donc Léonie attend ce jour qui approche, même si elle n'est pas vraiment prête à partir. Un jour, elle le doit, puisqu'elle retrouve la mère de la petite Lali morte dans sa cour d'immeuble. Et là, elle se dit « Partons, prenons l'enfant avec nous ». Mais les choses ne sont pas si simples, puisqu'on ne prend pas une enfant, même si elle est toute seule, comme ça. Et la police se met rapidement à suivre Léonie, qui tente de leur échapper et de retrouver Angela en partant dans ce grand road trip de Paris au sud de la France. Léonie, c'est un peu cette personne... Qu'on peut être après des déconvenues ou juste une grande paresse. C'est une fille qui pense aux choses faciles, qui pense à baiser, à boire, à fumer des cigarettes. C'est une fille qui n'a pas d'autre ambition que de se faire plaisir, qui n'a pas beaucoup de remords, qui ne pense pas aux conséquences de ses actes, mais plutôt au plaisir qu'elle peut en tirer immédiatement.
Et si on parle de son milieu, parce que vous le dites bien dans votre roman, Léonie décide de vivre sa vie en marge de la cellule familiale, de la société, le jour où elle découvre son homosexualité.
Alors c'est un peu plus tard, c'est là effectivement où les choses commencent, mais c'est là où Léonie découvre en effet qu'il y a une vie qui n'est pas celle de son milieu natal, une vie dans laquelle elle peut s'éclater et être plus originale, être plus dure, plus franche, plus drôle que dans ce milieu bourgeois dans lequel elle est née. Et c'est à ce moment-là, en découvrant tout le fun de la communauté queer, et tout, surtout à quel point ça peut être amusant d'être différent. C'est là effectivement qu'elle va s'émanciper complètement et atterrir au McDo.
S'émanciper et atterrir au McDo, ça marche pas ensemble, on est d'accord, Alban Ligné?
On est d'accord, c'est vrai que quand on veut s'émanciper, il faut avoir les armes nécessaires pour le faire. Si on est juste une fille qui se laisse porter et qui ne réfléchit pas beaucoup, comme c'est le cas de Léonie, ça peut mal se finir.
Et c'est parti d'où, justement, cette envie de parler de ce personnage, de ce milieu?
C'est parti effectivement de cette envie de montrer qu'on peut s'affranchir des choses. Après, on le fait comme on peut. Léonie a quand même l'air de bien s'amuser, même si sa vie tourne un petit peu en rond. Et je voulais surtout parler d'une fille voilà, qui suit ses envies, son instinct au jour le jour. Au départ, j'avais cette idée très précise de la babysitter qui n'aime pas les enfants et qui décide de...
C'est ainsi que s'ouvre votre roman d'ailleurs.
Tout à fait. D'ailleurs, j'ai commencé par avoir cette première scène, cette première page de Léonie qui s'accorde un moment seule, alors qu'elle est au travail finalement et que l'enfant est juste à côté. Donc je voulais, voilà, c'était vraiment ce personnage dans la consommation, mais pas des biens de consommation, justement, dans la consommation des gens et des sentiments, qui me semble être assez proche de ce qu'on vit maintenant, où c'est vrai que c'est mal vu de consommer des objets. Mais du coup, il y a une forme de compensation avec les autres, les sentiments et la surenchère de sensations.
Mais enfin, elle enchaîne des aventures sans lendemain.
D'où cette surenchère. Quand quelque chose s'arrête, il faut reprendre quelque chose de nouveau, de plus excitant, de plus compliqué. Et c'est ce que Léonie fait, même si elle est quelque part assez fidèle à Laure, qui travaille avec elle, et qu'elle retrouve souvent. C'est vrai qu'elle n'est là que 3 jours par semaine chez elle. On est en droit de se dire que les 3 jours, 4 jours suivants...
Oui, mais elle la fuit, comme si elle fuyait le bonheur, comme si elle fuyait une vie plus épanouissante.
Mais oui, mais on remarque quand même qu'elle a cette forme de peur de la solitude et de l'inconfort qui la pousse quand même à retrouver des bras qu'elle connaît, à tel point qu'elle va même retrouver celle qu'elle a connue il y a 10 ans. Il y a quand même une vraie peur de s'engager dans quelque chose d'inconnu, si c'est pas juste pour une nuit, justement. Une fois que j'ai eu Léonie, j'ai eu toutes les personnes qu'elle avait fait souffrir, malgré elle ou consciemment. Et leur histoire s'est nouée comme ça, les unes à travers des autres. Et ça m'a permis d'avoir ce roman choral qui dit toutes les frustrations et tous les désirs de ces personnages. Mais effectivement, tous ces personnages, ce que j'aime bien dans leur résignation, c'est qu'elles savent qu'elles sont responsables de ce qui leur arrive et que c'est de leur faute. Mais on les voit quand même essayer de se débattre un petit peu, d'avoir d'autres désirs qui sont immanquablement voués à l'échec également. Mais elle n'abandonne pas vraiment. Elle essaie quand même de s'en sortir par les chemins les plus difficiles et frustrants possibles, mais elles essayent.
Et vous-même, Alban Ligné, au milieu de vos personnages, avec Léonie, ses amantes, ses amours, vous vous situez comment ? Plutôt comme une amie ? Plutôt comme une d'entre elles ?
Une alliée. Je me vois un peu comme, pas au niveau de la personnalité, mais Cassandre qui aime bien retranscrire les choses par écrit. Cassandre, c'est un peu mon envoyé dans leur vie, qui retranscrit ce qui se passe, qui enregistre toutes les histoires, tout ce qu'il fait et se défait.
Et quelle est l'histoire de votre premier roman ? Ce roman qui sort donc chez Nil, J'ai des idées pour détruire ton ego.
Je l'ai commencé il y a 5 ans, c'était une version très courte, où on n'avait que 2 voix. Celle de Léonie et d'Angela. Et Angela juste à la fin. Et je l'ai fait lire à une amie qui l'a adorée. Donc je me suis dit, ah, je vais lui en donner plus à lire. Donc je l'ai continué. Et en continuant, je me suis dit, ah, mais pourquoi s'arrêter à un livre qui n'est pas tout à fait fini finalement. Donc j'ai continué de travailler. J'ai un très bon ami qui m'a aidé à travailler dessus, à l'enrichir, à voir mes écueils aussi. Et il y a 1 an, j'ai décidé de le faire publier. Je l'ai envoyé, Claire Dossero a aimé le manuscrit, on s'est rencontrés et ça l'a fait.
Voilà, comme on dit. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, sinon, Alban Ligné ?
Je suis scénariste. J'écris des séries.
Pour ?
En ce moment, beaucoup pour la jeunesse. Ce qui est assez marrant, quand j'ai dit à mon éditrice, en ce moment, j'écris pour Oum le Dauphin Blanc. Ça la fait rire. Quand on voit le contenu du livre, on ne s'attend pas à un changement de ton aussi quotidien. Je fais ça. J'ai aussi monté une bibliothèque itinérante à Paris qui s'appelle la Bibliothèque Queer, qui a pour vocation d'emmener la culture littéraire queer à divers événements. Alors pour l'instant, ça reste beaucoup en Ile-de-France, mais j'espère qu'on pourra bouger un peu plus. Mais bon, ce n'est pas mon métier.
C'est un acte militant pour vous d'écrire ?
Pas d'écrire dans le sens où ce livre ne contient pas vraiment de contenu militant et aucun des personnages n'est engagé dans une lutte, à part une lutte.
Ça, c'est le mot que l'on puisse dire, mais...
Oui. Mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de militant au fait de faire publier, en tout cas, un livre où quasiment tous les personnages sont des femmes, où quasiment tous les personnages sont des femmes gays. Ça, je pense qu'effectivement, l'existence du livre a un côté militant plus que son écriture.
Le côté social est très présent avec les 2 autres romans, celui de Mathieu Palin, Sale Gosse, que vous avez lu d'ailleurs, oui. Alban Ligné, et surtout celui d'Aurore Lachaud, complément du nom, Diriez-vous que votre roman à vous, J'ai des idées pour détruire ton ego, est aussi une manière de parler de la réalité sociale de la France d'aujourd'hui et de la crise qui touche les jeunes plus que les autres d'ailleurs?
Probablement de façon moins politisée, mais peut-être des crises qui sont plus internes, qui sont plus intériorisées aussi, qui sont celles du désir, de la difficulté à se projeter, que ce soit amoureusement ou socialement ou dans le travail. Donc c'est plus une crise de l'instabilité intérieure plutôt que de la société au sens large.
Et pourtant, il y a un rapport entre cette instabilité, tout l'instabilité politico-économique du pays ou,
exactement,
ou du monde.
Je le traite du coup par le prisme du désir, plus que par la révolte ou l'état des lieux.
J'ai des idées pour détruire ton ego, d'Alban Ligné. C'est édité chez Nil. Notre premier roman qui a retenu notre attention, celui de Mathieu Palin, Sale Gosse, édité chez l'Iconoclaste, c'est l'histoire de Wilfried, un gamin de 15 ans placé dans une famille d'accueil, et c'est surtout un livre sur ces héros anonymes qui travaillent au service de protection judiciaire de la jeunesse et qui tentent le tout pour le tout pour sauver ce qui peut encore l'être dans la vie de ces jeunes brisés par la vie. Bonjour Mathieu Palin.
Bonjour.
À la fin du roman, on devine pourquoi vous avez choisi ce sujet. Hein. C'est un sujet très intime, j'ai presque envie de dire. Vous avez vécu avec cette réalité-là, sans être un enfant placé dans une famille.
Non, j'ai eu, moi, au contraire, la chance de grandir dans une famille soudée, avec mes deux petites sœurs, mais surtout mes deux parents qui étaient là pour nous soutenir. Et c'est la grande différence avec les sales gosses qu'il y a dans le bouquin, c'est que le dénominateur commun, il est justement sur le fait que ces enfants ont, par la malchance, il n'y a rien d'autre que le hasard là-dedans, grandi dans des familles qui étaient dysfonctionnelles, parfois à tous les points de vue. Et là où je vous rejoins, c'est que mon père, lui, était éducateur, la PJJ, Protection Judiciaire de la Jeunesse. Et même s'il faisait beaucoup d'efforts pour pas ramener de boulot à la maison, on pouvait pas s'empêcher parfois, parce que les cas sont difficiles et que on peut pas les lâcher parce qu'il est 17h30 et qu'on rentre à la maison. Et de manière légère, on parle de « tiens, t'as oublié le pain, tiens, t'as oublié le liquide vaisselle ». Il y a forcément des prénoms qui reviennent et je l'entendais parler d'un David qui lui posait pas mal de problèmes, d'une Nadia. Et même si j'étais petit et que PJJ, je savais pas ce que ça voulait dire, je comprenais que derrière, il y avait des situations très compliquées et des enfants perdus, quoi.
Extrait de votre roman lu par vous-même, par l'auteur, Sale Gosse, Mathieu Palin.
Ce qui vous sert les entrailles une heure avant d'être jugé par une cour de justice est bien supérieur au stress du tireur de pénalty. C'est une peur profonde qui donne envie de chialer. Au second procès, l'angoisse s'envole. Le décorum, les personnages, tout cela vous paraît familier. Les jeunes qui débutent dans la délinquance se repèrent facilement. Ils font les 100 pas avec une pochette cartonnée comme s'ils tournaient au centre commercial pour déposer des CV. Ces pochettes cachent des attestations de stage pour les stupéfiants ou la sécurité routière. Certains ont enfilé leur plus beau jogging, d'autres ont risqué la chemise aux manches bouffantes et la cravate de papa. Ceux-là portent des chaussettes blanches sur leurs pinces et font des triples nœuds à leurs chaussures cirées. Ils stressent dans le corps d'un autre.
Pour écrire ce roman, Mathieu Palin, Sale Gosse, donc édité chez l'Iconoclaste, est-ce que vous les avez rencontrés, ces jeunes? Est-ce que vous avez rencontré tous ces Wilfried?
Ouais, ça a commencé en fait par un reportage, parce que j'étais
journaliste
à la Revue 21. Et la Revue 21 est une revue un peu à part dans le journalisme français qui permet à ces journalistes d'être en immersion pendant un temps assez long, un temps qui existe assez peu maintenant ailleurs.
Et donc qui donne de l'espace après.
Qui donne de l'espace en plus après pour raconter l'histoire, mais qui déjà laisse du temps pour comprendre ce qu'on regarde. Et moi, j'avais la chance d'être journaliste dans cette rédaction, et du coup, j'avais l'habitude de faire des immersions assez longues. Je devais rester un mois dans une équipe d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse à Auxerre, en Bourgogne, un milieu ouvert. Et finalement, je suis resté 6 mois. Donc au bout d'un mois, j'avais l'impression d'avoir eu la chance d'entreapercevoir une réalité. Mais j'avais rencontré plein d'enfants, plein de gamins déjà bien abîmés par la vie avant d'avoir atteint les 15-16 ans. Mais l'histoire centrale du livre, ce lien extrêmement fort qui se noue parfois entre un gamin qui a plus confiance en personne et qui voit débarquer par effraction dans sa vie un éducateur ou une éducatrice qui a décidé de le sauver alors que c'est pas son fils. C'est ça que je cherchais finalement, et j'ai mis un peu plus d'un mois à le trouver. Et quand j'ai rencontré Nina, qui s'appelle Nina, qui s'appelle pas Nina dans la vraie vie, mais qui s'appelle Nina dans le livre, j'ai su à ce moment-là que ce serait un livre. Mais j'étais d'abord parti pour un reportage.
Ce que vous racontez à la fin de ce premier roman, Sale Gosse, Mathieu Palin, alors que ce roman est extrêmement bien écrit, vous dites que ça vous a poussé à changer d'orientation professionnelle, que vous ne vouliez plus devenir journaliste, que face à des gens qui se sacrifient pour essayer de sauver ces gamins, vous avez voulu les imiter, vous impliquer d'une manière autre que l'écriture.
Enfin, je me substituerai jamais à ces gens-là. Leur mission, elle est de service public et ils la font vraiment de manière admirable. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre-là. C'est pour rendre visible, justement.
Et leur rendre hommage, d'ailleurs.
Leur rendre hommage. Après, je suis jugé parti dans cette histoire puisque, comme je vous l'ai dit, mon père était lui-même éducateur et c'est, d'une certaine manière, une enquête sur ce qu'a été sa vie avant de m'avoir moi, puisqu'il a quitté après la PJJ quand j'avais 8-9 ans. Et j'avais besoin de savoir ce que ça avait été que ce boulot qui lui avait laissé des amitiés très fortes, qui étaient des éducateurs qui, comme lui, étaient rentrés à 20-25 ans dans des foyers, s'étaient occupés de délinquants et qui, par la force des choses, étaient devenus amis dans l'adversité, j'allais dire.
Qu'est-ce que vous a permis, justement, le roman que vous n'avez pas pu faire ou transmettre via le journalisme et l'article ?
Le roman permet une liberté totale, même en tant que reporter à 21, j'avais beaucoup de place et j'avais du temps, ce qui sont deux luxes formidables, mais j'avais quand même une contrainte qui est la contrainte déjà déontologique et puis la contrainte aussi même matérielle, c'est-à-dire que je suivais des gens, à un moment il fallait quand même que je les lâche et parfois c'était au moment où je les lâchais que les choses devenaient intéressantes, le moment où la personne que vous suivez toute la journée monte dans sa chambre et se met à pleurer. Et ça, je pouvais pas le raconter, et ça, je pouvais même pas l'imaginer, c'était interdit. Et pourtant, je savais parfois que c'était vrai. En étant complètement libéré de ces contraintes-là, s'ouvrent aussi d'autres barrières. Il y a d'autres verrous qui sautent, et on se met à envisager un récit qui peut être aussi un peu un récit personnel. Il y a des choses que je mettais pas dans mes reportages parce que c'était des choses personnelles, notamment cette histoire un peu particulière que j'ai vis-à-vis de la PJJ, que j'ai pu, moi, là, intégrer et recreuser même l'histoire de mon père et de ses amis et de tout ce qu'ils avaient vécu, eux, dans une PJJ qui est plus exactement celle d'aujourd'hui, qui était celle des années 90.
Sale Gosse de Mathieu Palin, édité par l'Iconoclaste.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et puis enfin, pour terminer notre sélection des premiers romans de la rentrée, un roman coup de poing radical social, comme les deux premiers, avec une histoire poignante. Complément du nom d'Aurore Lachaud aux éditions Mercure de France s'ouvre sur la mort du père de la narratrice, un homme élevé dans le respect des valeurs du travail, qui a été souvent humilié par ses supérieurs. Et lorsqu'il meurt, aux obsèques, la fille, elle croise la DRH de la grande entreprise qui employait son père et qui est venue, comble du cynisme, rendre un hommage officiel. Et là, la narratrice, elle s'appelle comme vous d'ailleurs, Aurore, lui crache à la figure, lui crache toute sa haine à la figure.
Oui, j'entendais mes confrères et consoeurs parler de peut-être de ce que permet la littérature, c'est aussi de raconter le père qui raconte des histoires, de se saisir de la violence du monde, de la raconter, et je crois que la littérature effectivement permet ça, c'est-à-dire de peut-être retravailler avec les mots tout un ensemble de situations que l'on peut vivre ou en tout cas qu'on peut renverser. Et oui, cette scène effectivement, et tu proposes une sorte de renversement peut-être d'une violence qui s'abat. Particulièrement dans un contexte, enfin en milieu de funérarium, je dirais. Vous faites référence à ce passage-là, oui. Oui, voilà ce que permet la littérature, oui, par exemple, de renverser ça, oui.
En revanche, vous, Aurore Lachaud, vous êtes très militante. Hein. J'ai préféré vous laisser à la fin parce que dans le roman d'Alban Ligné, la crise sociale, elle est là, mais on a l'impression que les personnages ne veulent même pas se battre contre ce fait accompli. Dans Sale gosse de Mathieu Palin, il y a des gens qui s'impliquent pour essayer de changer ce monde. Dans votre roman, la narratrice, elle a envie de tuer tout ce monde.
je dirais pas du livre que ça relève du militantisme. Je pense que ça relève. Alors s'il y avait vraiment un militantisme derrière, ce serait celui
de la colère.
La colère, oui, mais au sens vraiment de la fureur latine, quoi. L'inspiration, là, c'est ça, c'est la fureur latine, quoi. L'inspiration de colère. Mais il y a pas de militantisme là-dedans. Enfin, moi, je sais pas. Je pensais à Albert Cossery qui peut-être rétablit une sorte de fantaisie. C'est plutôt ça. C'est plutôt un militantisme. Je sais pas, une sorte de fantaisie dans la contre la violence peut-être, ou en tout cas voilà, une sorte de décalage par
mais le fait de décrire,
c'est pas militant pour le coup,
même quand ça dénonce les conditions de travail, la logique économique des entreprises d'aujourd'hui, cette machine à broyer des hommes et des femmes.
Oui, mais ça passe par des biais. C'est toute la différence, je crois, entre un texte comme celui-ci et puis un pamphlet ou je sais pas, ou un tract. Ça relève pas du tract ici. Tout est dit, je pense, enfin j'espère en tout cas, par le biais de la narration de situation qui effectivement, il y a une portée peut-être politique. Effectivement, c'est ce que disait aussi Alban, mais ou Mathieu d'une autre manière. Mais disons que peut-être simplement le fait de raconter le monde du travail, c'est peut-être déjà effectivement quelque chose de, alors je sais pas qui relèverait du militantisme, non, en tout cas d'une sorte de, peut-être de quelque chose de politique, oui.
On va vous entendre lire un extrait de votre premier roman, Complément du nom, Aurore Lachaud.
Oui. À la fin de son histoire à lui, à mon père, il y a eu des appels téléphoniques. Sur la fin, il y a forcément eu une évaluation. Celle qui, je crois, intervenait en janvier, la fameuse rencontre. Le fameux appel de mon père qui m'annonçait qu'il allait être noté, qu'on allait éplucher son travail, qu'on allait lui balancer des courbes, des chiffres, des plus-plus, des moins là parce que racine carrée de sa mère la pute sur un diagramme, ou des gommettes rouges en PowerPoint digital, écran laser Big Big plus 4 et retire cosinus puissance canard WC à ton salaire. Quand il m'appelait pour m'annoncer la rencontre avec un énième diplômé d'HEC pour qui un avion, c'était pas des boulons et de l'aérodynamique, mais un investissement offshore et un mot à rallonge ou raccourci en anglais que tu dis en étant très sérieux et en croyant que ça recouvre vraiment quelque chose. Donc, quand mon père m'a appelé, il m'a simplement dit qu'il flippait, sans dire un mot.
Quel sentiment vous habitez, Aurore Lachaud, quand vous avez écrit ce texte, Complément du nom ?
Ce qu'on évoquait tout à l'heure ensemble. La fureur, je n'oserais dire le mystère aussi, quelque part. Les deux, pour reprendre Néchard, mais fureur et mystère, je pense. Fureur de... je pense que le titre en est porteur aussi. Il peut être lu de différentes manières, c'est vrai, mais non, c'est la première chose qui vient peut-être face à la mort de l'autre. Et qu'en faire ? Eh bien, écrire, s'en saisir, raconter quelque chose à partir de cette fureur-là, oui, comme je disais, voilà, la colère, l'inspiration, et puis tout reste. Alors, s'il y a des restes, autant en parler, et puis en composer quelque chose à partir de la mort d'un père, et de ce qui s'ensuit.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Aurore Lachaud ?
Je parle de mots, de littérature, je fais partie de la secte de l'éducation nationale.
Tiens, mais ouais. Comme la narratrice.
Ah ouais, c'est drôle, hein.
Ouais.
Il y a de sacrés parallèles, non, dans la littérature.
Vous citez Beckett dans votre roman Complément du nom, Aurore Lachaud.
Oui. Bah oui, alors c'est rigolo parce que vous m'avez fait lire en plus un passage qui se termine sur l'absence de mots. Bah oui, s'il y a quelqu'un qui a bien travaillé le silence quand même, c'est bien lui. J'espère que le livre... Alors peut-être que le livre est beaucoup plus bavard que l'écriture de Beckett, mais oui, Beckett, ça fait partie des sources aussi d'inspiration qui... je crois que je cite Premier amour, la scène où le passage où le narrateur comprend en fait que bye bye la maison du père en fait, que c'est terminé tout ça, et il le raconte simplement par un empilement de carton, et il comprend que c'est fini en fait tout ça, et c'est dit de façon absolument c'est Beckett quoi, c'est quand même c'est un grand, et oui, avant d'écrire on est surtout des lecteurs, donc moi, je suis surtout une lectrice en premier lieu.
De quel genre de littérature?
Je vous ai parlé de René Char là tout à l'heure, de Cossery, voilà, je vais découvrir aussi à la faveur de cette publication d'autres jeunes auteurs, donc ça c'est plutôt une vraie chance pour le coup, mais Beckett, Cossery, Duras, enfin bon voilà, pas mal de des gens bien.
Vous allez continuer à écrire, Aurore Lachaud?
Je continue déjà. avant même l'envoi du manuscrit, par la poste d'ailleurs. C'était un 22 décembre. Le 22 au soir, le manuscrit envoyé, je continuais déjà... comme dirait Beckett, il faut continuer. Moi, je veux continuer, à la différence de Beckett. Je veux continuer à écrire.
Quel sentiment ça vous provoque d'écrire, Aurore Lachaud?
Une grande joie. Bah oui, c'est plutôt pas mal, non? C'est quand même, on parlait de luxe tout à l'heure, c'est quand même un vrai luxe d'écrire. De pouvoir avoir justement de jouir de cet espace de liberté, parce que précisément par rapport au monde du travail, rares sont les espaces où on peut véritablement dire ce que l'on a envie de dire. La famille, c'est compliqué, le travail, sont des espaces contraints, donc la seule contrainte dans un livre, ce sont les marges, enfin en tout cas voilà, on est à la marge aussi, donc de la joie bien sûr.
J'ai des idées pour détruire ton ego d'Alban Ligné, c'est édité chez Nil. Sale gosse de Mathieu Palin chez l'Iconoclaste. Et enfin, Aurore Lachaud pour Complément du nom. C'est publié par le Mercure de France. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci.
Merci.